de venir, d'écouter la parole, c'est précieux, non? C'est précieux. On est moins nombreux, mais voilà, on l'a entendu, la crème de la crème est là. Donc, et puis ensuite, eh bien, écoutez, de toute façon, je ne connais pas grand monde, à part peut-être des gens très, 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 très âgés, 120 ans ou très malades, qui vont pas manger aussitôt. Donc on est en bonne santé, on mange bien plus tard, donc on peut occuper le temps et se rappeler que Dieu est roi. Alors, il n'y a pas de louange ce soir, mais j'ai un message et je dois dire que j'ai souri, je me suis régalée en l'entendant, et c'est un message de Noël, hein, pas comme celui que j'ai prêché la dernière fois, qu'il était aussi, mais vraiment pour de bon, différent. Hein. Certains se demandaient où j'allais, mais vous remarquerez que c'était quand même à propos. En tout cas, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, si vous aviez une grande annonce à faire, quelque chose d'énorme, que vous voulez, je dirais, faire connaître au monde, que vous voulez mettre sur le marché, vous voulez impacter le monde. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de façons de s'y prendre, et il y a ce que nous connaissons comme étant le marketing, c'est-à-dire mettre un produit sur le marché, mettre une idée sur le marché, pour la faire connaître au monde. Alors, je me suis dit, tiens, je vais regarder. J'ai pensé à certaines techniques, mais là, je me suis rendue sur un site pour entrepreneurs, pour lancer un produit. Alors, ils donnent des idées. Ils disent, bon, ben, diffusez les avantages, immiscez-vous dans la routine de votre client, de manière à la comprendre. Il faut que ce que vous avez à donner, eh bien, ce soit facile à utiliser. Ben tiens, toi Tristan qui est là, il y a grande chance que tu vas voir que tu vas pouvoir confirmer ou infirmer. Hein. Faites en sorte que les avantages soient faciles à repérer. Plus les gens perçoivent les bienfaits et avantages du produit, plus le produit va se vendre. Permettez aux clients de l'essayer, échantillons, spécimens, etc. Et puis ensuite, il parle de créer un plan de vente, de développer le plan de vente, de construire le marché et de créer d'autres marchés. Bon, voilà. Et puis, il y a Forbes qui parle des moyens peu coûteux pour promouvoir le lancement d'un produit. Il dit sur le site de la loterie, organisez un tirage au sort sur votre produit, utilisez un site de financement participatif et créez une campagne sur le teaser de Facebook. Des mots qui sont, hein, que l'on connaît aujourd'hui. Et puis il y a un autre site qui disait 20 manières de lancer efficacement sur le marché votre petite entreprise. Lancez une liste d'emails marketing. Concentrez-vous sur l'approche de l'utilisateur. Il faut que le site soit convivial. Ensuite, le site web doit être net et professionnel. Utilisez des réseaux sociaux pour communiquer. Ne minimisez pas l'optimisation du moteur de recherche. Écrivez de bons textes. Faites en sorte que les followers se sentent exclusifs. Et puis ensuite, on passe au point 12. Auditez ou vérifiez votre concurrence. La concurrence, numéro 18, faites des promotions. Et 20, écoutez vos clients. Voilà, toutes les techniques que l'on a aujourd'hui pour mettre un produit sur le marché, pour lancer une idée. Luc chapitre 1, verset 26. Et bon, on sait qu'il y a plein de choses, hein. Il y a même, on l'entend, il y a des moyens peu coûteux pour faire passer une annonce. Et puis, j'ai pensé à celle que Jésus est venu faire, la manière dont Dieu a lancé son annonce à la terre entière. Alors, c'est vrai que pensant à ce que j'allais prêcher, quand j'entends « faites des promotions », on n'arrivait pas trop en sachant que le prix que Jésus est venu payer on ne peut pas le mesurer, immesurable. Écoutez vos clients. Ah ben, si Jésus avait dû écouter les bonnes idées de Pierre, l'annonce ne serait jamais arrivée jusqu'au 21e siècle. Hein. Écrivez de bons textes. Ben, Jésus n'avait pas à se promouvoir. Donc vous imaginez un petit peu la technique de marketing de Dieu. Et je veux dire, ça m'a vraiment fait rire et ça m'a vraiment bien encouragé. Dans Luc chapitre 1, versets 26 à 33, il est dit le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David, le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura point de fin. » Alors on se situe, il y a 400 ans de silence entre les dernières paroles qui nous sont relayées dans le livre de Malachie et les premières qui arrivent dans Matthieu, 400 ans de silence. Et tout d'un coup, le Seigneur fait deux grandes annonces qui sont choquantes. Deux grandes annonces qui sont encore arrivées jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est faite à Marie et il y en a l'autre qui est faite à Zacharie. La naissance de Jésus, la naissance de Jean-Baptiste. Alors, on pourrait, là, on voit, eh bien, aller sur un site de loterie, par exemple, et mettez votre, faites un, en sorte que votre produit, comme un échantillon, soit mis au, lancé au tirage au sort. Et ici, on voit que Jésus va naître, eh bien, l'annonce, pardon, va être faite à Nazareth en Galilée. On pourrait penser, Nazareth en Galilée, je suis sûre que ça doit être un site, il doit y avoir un site internet là qui doit vraiment rayonner sur toute la surface de la terre. Sans doute qu'il aurait... Le Seigneur s'est trompé pour que ça aille plus vite. Il aurait dû utiliser Facebook ou Twitter. Moi, je pense que si Jésus était né à cette époque-ci, eh bien, peut-être que l'annonce aurait été plus grande. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus a été envoyé au temps de Dieu, au bon moment, quand le temps était celui que Dieu avait choisi. Alors, le Seigneur a choisi, le Père a choisi que son fils naisse en Galilée. Alors, il faut savoir que la Galilée était une région qui n'était pas particulièrement aimée des Juifs. Elle était remplie de Romains. Donc, on peut, ça, c'est une des raisons pour laquelle elle n'était pas très, très, je dirais, fréquentée par les Juifs. Puis, il y avait beaucoup de Samaritains. Les Samaritains étaient des Juifs qui avaient adopté la culture païenne de Babylone et qui mélangeaient les rites juifs, les rites babyloniens. Et puis, il faut savoir aussi que les Galiléens n'étaient pas connus pour être des gens très cultivés. Donc, le Seigneur va naître en Galilée. En Galilée, une région où il y avait beaucoup de corruption. L'annonce a été faite en Galilée, l'annonce a été faite à Nazareth. Nazareth. Alors, il faut dire que franchement, aujourd'hui, qui aurait choisi Nazareth ? Déjà, d'un point de vue marketing, la région n'était pas bonne. La région, c'était la Galilée. Et puis, dans la Galilée, il va choisir Nazareth. Alors, on se dit, cette ville, à peu près de 10, 15 000, 20 000 habitants, donc ce n'était pas une très grande ville, hein, plus petit que Menton sans les touristes. Et c'est une ville, à vrai dire, qui n'était même pas mentionnée dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, bah, c'est un non-lieu. C'est une ville qui n'est pas importante. C'est une ville où il n'y a pas une très bonne ambiance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Luc chapitre 4, versets 28-29, il est dit « Tous dans la synagogue furent remplis de colère en entendant ces mots de Jésus. Ils se levèrent et entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâti, afin de le précipiter dans le vide. » C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient connus, c'était des Galiléens, ils étaient connus pour être rudes. C'est-à-dire, on en a marre de ce que tu as à nous dire. Quand même, Nazareth est la ville, non pas où Jésus est né, mais où il a été élevé. L'annonce, hein, Joseph et Marie, vivaient là. L'annonce est faite là. Jésus a grandi là. Mais c'est une ville qui n'est pas accueillante. Et quand ils en ont marre, ils ont une manière de régler le problème, c'est qu'ils t'amènent faire un tour sur la colline. Et de là, ils vont se débarrasser de l'annonce. Il a quand même été chassé deux fois de sa ville. Nazareth, quelle ville pour lancer une annonce? Est-ce que le Seigneur s'est trompé dans le marketing? Matthieu 13, verset 58 nous dit « Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale et dans sa famille. » Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Donc là, Jésus fait des miracles, c'est-à-dire il est quand même entré dans son ministère. Mais la ville est toujours aussi réfractaire. Finalement, Jésus a fait de Capernaum son lieu de naissance. Jésus a carrément changé de ville. Dans Jean chapitre 1, versets 45-46, il nous est dit « Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Vous vous rappelez de cela? Maintenant, on commence à comprendre pourquoi. Alors d'abord, il faut savoir que là, donc, Jésus est annoncé, l'annonce est déjà passée, les prophètes et la loi avaient annoncé la naissance, non pas à Nazareth, mais à Bethléem, mais là où Jésus a grandi, là où Jésus a vécu, là, de là où l'annonce est partie, c'est bien de Nazareth. Alors ils se demandent, mais il y a vraiment quelque chose de bon qui peut venir de cette ville-là? Et on voit que quand Jésus a grandi dans cette ville, donc vous imaginez, on voit que quand il exerce son ministère, eh bien, ils veulent le chasser de la ville. Mais vous imaginez dans quelle ambiance Jésus a grandi. Parce qu'ils n'ont pas cherché à le chasser uniquement quand il a cherché à annoncer l'évangile. C'est que Jésus a vécu une vie sans péché. C'est-à-dire, vous imaginez dans quelle atmosphère il a dû faire des choix pour continuer à suivre le Père. On est en train de voir quoi? Quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas comme le monde le pense, comme le monde le voudrait faire. Il va même à l'inverse. Il n'est pas allé dans la capitale, il n'est pas allé à Jérusalem, et non pas Tel Aviv ou Haïfa comme aujourd'hui. Jérusalem était la capitale, Jérusalem est encore la capitale. Il n'a pas été dans une ville où tout était facile, où tout était beau. Il n'est pas allé dans une... Non. Il est parti de la Galilée, là où la région abritait des gens peu éduqués, des gens pleins de compromis, des gens pleins de corruption. À l'inverse, il a fait à l'inverse du monde. C'est-à-dire, imaginez que pour faire la plus grande annonce, que c'est quoi, Zuckerberg, j'étais presque, l'autre c'est en Alsace, non je plaisante. Zuckerberg, je sais jamais son nom, je sais que ça commence par Zu, ça finit par Berg, on sait. Mais imaginez que Zuckerberg veuille faire une très grande annonce concernant Facebook et il l'a fait de paye. Alors, imaginez que tous les conseillers disent à Mark Zuckerberg, tu veux vraiment cette grande entreprise cotée en bourse, tu veux vraiment qu'il y ait une annonce qui aille de par le monde et qu'une annonce qui soit réussie va à paye. Et puis c'est non seulement va à paye, mais ensuite choisis-toi une personne à qui tu vas faire cette annonce, et c'est la personne qui va être, mais vraiment celle qu'il te faut. C'est-à-dire une adolescente d'à peu près 12 ans, Marie. Marie avait à peu près 12 ans, entre 12 et 14, certains pensent plus 12, mais bon. C'était pas une femme de 40 ans. C'était une ado, mais à cette époque-là, eh bien, on se mariait à cet âge-là. Il faut savoir que non seulement c'était une jeune, mais en plus, si vous avez lu certaines choses sur Marie, elle était de condition humble. Elle n'est pas restée de condition humble avec ce que les rois, les astronomes ont apporté, mais en tout cas, elle était de condition humble quand l'annonce lui a été faite. Luc chapitre 1, verset 48 nous dit, car il a, c'est elle qui le dit, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Quand elle parle de son humble servante, elle ne parle pas que de sa condition spirituelle, mais une autre version dit parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et puis dans Luc chapitre 2, verset 24, il est dit que Marie et Joseph devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, et ils ont offert une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Pourquoi ils ont offert des oiseaux? Parce qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour offrir un agneau. Et quand la loi disait que s'ils n'avaient pas un agneau ou un bœuf à offrir, eh bien, ils offraient des oiseaux. Ils ne pouvaient pas. Elle était de condition humble. Donc, c'est-à-dire que vous allez à Breil et vous choisissez une jeune servante. Oh, Breil, c'est kiff-kiff, hein. C'est pas à Paris, hein. C'était une jeune qui n'avait pas beaucoup d'expérience, n'était pas une grande théologienne, elle n'était pas Paul, elle n'était pas l'apôtre Paul. Une ado à paye, c'est le marketing de Dieu, c'est sa manière de faire les annonces. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi a-t-il choisi la Galilée? Pourquoi a-t-il choisi Nazareth? Pourquoi a-t-il choisi une adolescente? Parce qu'à lui seul vient la gloire de ce qui est fait. Il ne s'est pas reposé sur la réputation d'une ville, il ne s'est pas reposé sur ce que les gens faisaient de bien, sur la créativité, sur la renommée, sur le tourisme. Ce n'était pas non plus en Suisse qu'il est allé, il ne s'est pas adressé aux grands banquiers suisses. Il est allé là où personne n'aurait voulu aller. Il est allé là où on lui aurait déconseillé d'aller. S'il avait demandé à Pierre, pourtant, qui avait une entreprise de pêche, où me conseilles-tu d'aller? Pierre aurait dit au moins Capernaum. S'il avait dit, non, je vais aller à Nazareth, eh bien, peut-être que Pierre aurait même dit, ah bon, ça se trouve où? Mais Marie avait un appel. Elle avait une place que Dieu lui avait réservée. Et l'ange qui l'a visité l'a préparé à cela. Il lui a parlé de la grâce qui lui était faite, la faveur, ce qui lui était donné. Et puis il a assuré de la présence de Dieu. Il a dit, Dieu est avec toi. Et c'est ce qui est dit à ceux qui ont un appel. Moïse, Exode 3, Josué 1, Jérémie 1, Gédéon, Juge 6. Et donc Marie, en entendant ce qui est dit à ceux qui ont un appel, sait que quelque chose de grand va se passer. La Bible nous dit que Marie a été très troublée par l'annonce qui a été faite. Et au verset 29, il est dit qu'elle se demandait ce que pouvaient signifier ces salutations. Quand une autre version dit, en entendant cela, Marie est très émue. Vous imaginez les émotions de cette jeune. Pourquoi? Parce que Marie a entendu, elle sait que le Messie doit venir. Elle sait, elle a lu Ésaïe chapitre 9. Elle sait que c'est une vierge qui va l'enfanter. Elle sait aussi que le Messie va venir et qu'il va établir le royaume de Dieu sur terre. Elle sait qu'il va apporter à nouveau la présence de Dieu. Elle le sait tout cela. Et tout d'un coup, elle est troublée. C'est-à-dire que vous imaginez l'état de ses émotions, mais elle ne laisse pas ses émotions la dépasser. C'est à ce point qu'elle est forte. Et la Bible nous dit, elle est intellectuellement curieuse. Elle cherche à connecter les points. Elle se demande, mais comment ça se fait alors que c'est une jeune, oui, elle a 12 ans, mais c'est quelqu'un qui déjà est attentive à la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Alors, il est vrai, Dieu a fait la plus grande annonce au milieu de nulle part à une petite personne, oui, à lui est la gloire. On voit ici, on a un aperçu du caractère de cette jeune face à la prophétie. Elle ne laisse pas ses émotions l'emporter. Face à l'annonce, elle se contrôle, elle a de la tenue. C'est pas Miss World. Oh, bon. Vous savez, tout ce genre de truc qu'on apprend à faire. Marie, c'est pas ça. Elle pèse. Elle pèse le poids des paroles. Elle ne se laisse pas dominer par les circonstances. Mais vous remarquerez qu'à la croix, cette même Marie ne s'est pas laissée dominer par ses émotions. Alors ça, oui, pour Marie, il y a une chose que je voudrais vous dire et vous encourager. C'est que vous pouvez avoir l'impression d'habiter au milieu de nulle part. Vous pouvez avoir l'impression d'être parmi les gens les moins éduqués ou les plus ce que vous voulez. Vous pouvez dire, mais tu sais, moi, personne ne me connaît. D'ailleurs, on ne connaît même pas le nom de ma ville. C'est pour dire que paye, on le découvre sur la carte. Ou alors, je n'ai pas assez ceci ou je n'ai pas assez cela. Mais c'est pour te dire que quand Dieu veut faire quelque chose, rien ne l'empêche. Dieu a une manière de faire les choses. Dieu a une manière de placer sa vie dans ton plan. Dieu a une manière de t'amener vers ta destinée qui n'a rien à voir avec tes circonstances actuelles. Ce que tu fais, c'est comme Marie. Tu gardes la parole cachée dans ton cœur. Tu médites sur ces choses, sur les paroles de Dieu. Tu apprécies la présence de Dieu quand elle vient à ta rencontre. Oui, l'Éternel Dieu vit dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais nous savons tous qu'il y a des temps de visitation. Nous savons tous qu'il y a des temps où le Seigneur nous invite à nous approcher de lui, ou carrément fait un pas vers nous. On le sait tous, on a tous vécu des moments où on se sent transporté vers lui. Notre âme est tournée vers lui. Eh bien, apprécions ces moments-là. Parce que là, il se passe quelque chose. Alors oui, la Galilée ne parlait pas beaucoup aux gens. Il y avait toutes sortes de corruptions, il y avait toutes sortes de ce que l'on veut. Il y avait plein de Romains, il y avait beaucoup de mélanges de cultures. Il y avait... Que peut-il sortir de bon ? Peut-être que les gens vous disent ça. Mais que peut-il sortir de bon de ta vie ? Ou vous vous demandez, que peut-il sortir de bon de cette situation ? Si tu as les yeux tournés vers Dieu, alors il sortira quelque chose de bon. Parce que personne, aujourd'hui, tout le monde sait où se trouve Nazareth. Aujourd'hui, tout le monde sait que le meilleur est sorti de Nazareth et son nom est Jésus. Alors, en cette période de Noël, gardons les yeux fixés sur le Sauveur et rappelons-nous que peu importe où nous nous trouvons, peu importe ce qui se passe au milieu de nous, quelque chose de bon peut en sortir par la grâce de Dieu. Amen. Alors voilà, c'est le message que j'avais pour vous, un message qui j'espère vous parle, qui vous encourage. Et je vous encourage à méditer. Méditer sur... Imaginez Nazareth, imaginez l'opposition qu'a vécu Jésus. Aucun de nous n'a vécu l'opposition qu'il a vécue. Et pourtant, quelque chose de bon est sorti de Nazareth. Quelque chose de bon est sorti de Nazareth. Eh ben, joyeux Noël, hein? Joyeux. Joyeux Noël. Alors, ce qu'il est peut-être bien de faire, c'est de prendre le pain et le vin, de se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous.